bande originale du lundi au vendredi sur France Inter à partir de 11h.
Allez, des bouquets de cheval. Hein.
C'est la bande originale, soyez bienvenus avec Leïla Kadour-Boudadi.
Bonjour.
Daniel Morin.
Bonjour.
Tom Villa. Bonjour. Guillaume Auguste. Tout à l'heure, Tanguy Pasturo. Et notre invité, Xavier Dolan.
Bravo.
Bonjour Xavier, merci de venir.
Merci à vous de m'inviter.
Avec une légère fatigue due à des mois
de promotion.
C'est vrai ?
Bah, plusieurs semaines au Québec d'abord, puis ici, après en France, mais... Voilà, c'est un bonheur. En fait, on a fait une tournée en province au Québec.
Xavier, ne me dites pas c'est un bonheur alors que vous seriez tellement mieux dans votre lit en train de prendre un grog ou de dormir.
C'est un petit bonheur.
Xavier, on va pas commencer sur des bases comme ça. Soyons cash.
Non, mais c'est vrai que c'est un bonheur.
Et vous savez, quand je vous demande comment ça va, je suis sincère. Vraiment, comment ça va, c'est pas juste un truc de bienvenue à la radio.
Ça va très bien. Ça, voilà. Je veux dire, j'ai fait la promotion de mon film, et puis maintenant il sort, et puis ça appartient aux gens. Donc voilà.
On a ce sentiment-là, c'est comme un baby blues, c'est d'un coup le bébé est là et il quitte la maison, quoi. On peut plus rien faire pour le bébé.
Ben non, moi j'ai fait ce que je veux dire, je l'ai écrit, je l'ai tourné, et puis je l'ai protégé, je l'ai défendu. Maintenant. J'ai l'impression que c'est le début du reste de quelque chose d'autre. Pour moi, il y a un autre chapitre qui commence. Je lâche le film et puis je peux commencer à rêver à quelque chose d'autre.
Oui, ça ressemble vraiment à lâcher un enfant, de porter.
C'est une image qui revient souvent, mais c'est juste.
C'est ça. Ouais. Mathias et Maxime, l'histoire de deux amis d'enfance au milieu d'une bande de potes d'ailleurs, et qui font tout ce que l'on peut faire, qui vivent leur vie les uns et les autres. L'un est très BCBG et a sa place dans la société,
très
on
classique.
Va dire. Il était même costard cravate carrément pour le désigner. L'autre est un peu plus rock'n'roll. Et puis pour les besoins d'un court métrage, justement sur un ton de défi, de t'es pas cap ou de t'es cap, ils vont s'embrasser et de là va partir une espèce de flottement, un doute autant d'ailleurs dans l'esprit des deux garçons qui s'embrassent que chez le spectateur. On sait pas trop comment, et d'ailleurs il y a un cut, c'est-à-dire que le bisou, nous on n'a pas droit.
Non, mais non, parce que c'est assez anodin, puis c'est de revenir à dire que ce baiser devrait être sans importance, devrait n'avoir aucune importance. Puis finalement, pour les personnages, c'est pas le baiser en soi le problème, c'est tout ce qui l'éveille, puis ce qui, chez eux en fait.
On va évidemment parler de ce film qui est d'une réalisation et d'une beauté dingue, je vous le dis, dans le blanc des yeux. Non, mais c'était incroyable, le boulot que vous faites et le génie que vous portez, avec une espèce en plus de fluidité et de naturel. C'est-à-dire que c'est pas génial avec le côté « je vais vous montrer que je suis génial et je vais vous en mettre plein la vue ». Ça l'est parce qu'on vit des émotions, on vit des situations et on est porté par le film, à tel point d'ailleurs que un peu à la manière, prenez-le comme un compliment dans ma bouche, à la manière des frères Cohen à la fin, quand ça s'arrête, on se dit ah bah non, ça peut pas s'arrêter comme ça.
Tant mieux.
Vous voyez le côté, les points de suspension. À vous d'écrire la fin du film,
ouais,
si vous souhaitez l'écrire.
C'est un peu ouverte en fait.
Ouais, c'est ça. Ouais. Jouons avec la vie. On va jouer avec la vie de Xavier Dolan.
Comme encore du Nord.
Petit garçon, et vous n'y dites rien, Xavier, c'est eux qui doivent trouver. Voilà. À qui aimer écrire, Xavier?
Céline Dion. Au Père Noël, adieu.
DiCaprio, non?
Pas Céline Dion.
Un réalisateur.
Non, je vais prendre l'acteur, oui. Vous aimiez écrire aux acteurs ou aux actrices dont vous étiez fan, que vous aimiez?
Oui. J'ai toujours aimé, en fait, écrire aux gens que j'admire. Chanteur, chanteuse, acteur, actrice, je l'ai toujours fait. Je continue encore à le faire, d'ailleurs, quand je vois un film que j'aime, quand je découvre quelque chose que j'aime, je déclare ma flamme sur... maintenant que j'écris peut-être plus de lettres, je fais un post sur Instagram. Ouais. Je sais qu'ils le verront plus facilement, puis que ça va leur parvenir en fait, alors que les lettres.
La différence, c'est que tout le monde peut-être peut le voir aussi sur les réseaux sociaux.
Ouais.
Exact.
Puis aussi, c'est que quand je vois un film que j'aime ou je découvre quelqu'un que j'apprécie et dont j'admire le talent, j'ai envie que tout le monde le sache. J'ai pas envie de lui faire une déclaration en direct.
Il n'y a même pas une espèce de pudeur ou de fausse pudeur en disant avec mon nom, ma notoriété, je ne vais pas le faire, ça risque d'être mal interprété, ou si c'est une actrice ou un acteur...
Il va
penser que j'essaye de le convaincre de venir sur un projet, ou j'aurai du mal à lui refuser un projet s'il n'est pas dans les clous de ce projet, non?
Franchement, non. Moi, j'ai passé trop de temps dans cette industrie à me sentir seul, et puis à sentir que j'avais avait absolument pas la solidarité ou la légitimité parce que des cinéastes me faisaient sentir comme si j'étais un jeune imposteur ou ouais le bébé ou le ça a été excessivement difficile au début de ma carrière, c'est-à-dire cet aspect a été ardu pour moi.
Ouais. Et puis, et vous voulez pas reproduire le schéma maintenant que vous êtes installé.
Non, mais pourquoi? Mais c'est surtout qu'on vit dans une. Je comprends pas pourquoi je devrais me retenir en fait de dire à quelqu'un que je me fous de la façon dont c'est interprété. J'ai envie de. Je pense qu'il faut soutenir, il faut être solidaire et puis il faut inspirer les gens, puis les inspirer à continuer, les encourager, leur dire je fais ce métier, j'ai vu ce que t'as fait.
Non, ce qui est bien, c'est que vous l'ayez fait en n'étant pas connu, comme vous le faites en étant connu. Et reconnu, c'est-à-dire que justement, c'est pas les
mais c'est constant comme comportement.
C'est ça. Mais à la limite, vous savez,
il y a pas de calcul, quoi.
Le fait de savoir qu'il y a des gens qui a 750 000 personnes qui vont le voir sur Instagram, ça me fait plaisir. Tant mieux si je peux, si elles voient que
vous influencez
le travail d'un autre. Voilà. Ou c'est justement, c'est le but, non, de ces.
Vous souvenez de la première personne à qui vous ayez envoyé une lettre il y a quelques années, premier acteur, première actrice?
Oui, c'était Léo DiCaprio.
Ah, le premier, donc bien vu pour...
Je sais pas, j'en ai peut-être écrit une à Céline Dion avant.
D'accord.
C'est toi qui as dit Céline Dion. Ouais.
Et quelle est la dernière personne à qui vous ayez souligné la qualité de son travail ou votre admiration?
Sam Levin, en fait, toute l'équipe derrière la télésérie Euphoria. De HBO.
D'accord.
Silence.
Non, c'était bon. Le côté toute l'équipe, d'accord. Mais comme j'ai pas vu, je peux pas.
Mais tout est bon, tous les acteurs sont bons, mais l'écriture est géniale et les c'est. Ouais, j'ai fait une.
C'est inspirant.
Ouais, ouais, très inspirant.
Quelle récompense n'a-t-il jamais été cherchée? Il a reçu une récompense, il a jamais voulu aller
française
chercher.
Française?
Oui.
Palme d'or?
Non.
Je sais pas, t'es pas là, t'es chez.
Ça serait classe.
Des tons, des insignes d'honneur. Non,
je suis très urgent, je suis désolé, je dois y aller. Vous m'envoyez par la poste,
pas livré, je sais pas.
Et en plus, ça tombe un dimanche, franchement. Non, pas la palme d'or, mais en tout cas, c'est à Cannes.
La caméra?
Non.
Qu'est-ce que... Attends, Cannes...
On s'en fout, c'est pas grave.
C'est pas... On en parle pas?
Non, non, on peut, si vous voulez.
Ok, non, mais on oublie, alors on laisse tomber.
Non, non, mais...
C'était quoi?
C'est le queer... Ça s'appelle...
La queer palme.
Queer palm. Okay. Vous trouvez que c'est trop ghetto de communautariste, quoi, de dire on va remettre une récompense à un homosexuel? Parce qu'il est homosexuel et parce qu'il ira bien.
Mais
réalisé.
C'est pas ça. On remet c'est un film à caractère LGBTQ, un film qui parle de cette communauté, un film qui s'inscrit dans cette communauté, un film qui après à l'époque quand je l'ai refusé, moi je trouvais que je l'ai refusé, c'est-à-dire je vais pas aller la chercher, oui. Je trouvais que ça ghettoisait, puis je trouvais que enfin moi mon désir dans la vie, c'est pas que la communauté LGBT bah oui, je veux qu'elle voit mes films, mais c'est surtout que c'est la communauté en dehors qui m'intéresse.
Ah ouais.
J'ai un grand intérêt envers le public LGBT, tu comprends, la communauté queer.
Et qu'on arrête de parler peut-être de communauté, qu'il y ait plus de barrières.
J'ai besoin que les autres voient le film, et puis je pense qu'avec des étiquettes comme Queer Palm, ça peut être rédhibitoire pour certaines personnes. En même temps, que ce soit rédhibitoire est le problème. Si on veut le régler, comment on fait? Je sais que la Queer Palm, ça aide tout un tas de films à être connus puis à être vus. Être vu par qui? Peut-être, c'est mon point de vue. Après, je l'ai exprimé avec quand même assez de violence à l'époque. C'est ce que je regrette un peu, mais fondamentalement, je sais pas si j'ai changé d'avis. Je sais à quel point je suis pour, mais voilà, j'aimerais bien qu'éventuellement on se rende un grand champ de fleurs et qu'on marche main dans la main et qu'on se gambade sans étiquette comme ça.
Si vous remettez à nouveau ce prix, vous ne retournerez toujours pas le chercher?
Oui, j'irai.
Ah, quand même. Que fait Xavier Dolan?
Je crois pas qu'ils me la donneront pas encore.
Que fait Xavier Dolan en souvenir de chaque film ou de chaque peine d'amour? Chaque film ou chaque peine d'amour? Pardon. Xavier, ça va.
C'est lié avec de la musique.
Non.
Il écrit quelque chose.
Tu as mal compris son geste.
Et du coup, on n'ose pas dire le prochain.
Chaque film, chaque peine d'amour.
Il tue quelqu'un?
A une incidence.
Il sacrifie un animal. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut faire à chaque peine d'amour?
Un tatouage.
Chaque film.
Exactement.
Ah ouais.
Exactement. Oh, un tatouage.
Ça fait
bien
beaucoup
vu, Guillaume.
De tatouages potentiels, les peines d'amour, en fait.
Ouais, mais bon, il y a de la place. Je suis petit, mais.
Mais les tatouages sont pas grands, peut-être, aussi.
Mais non, c'est ça. Je dois réduire la taille.
Film. Alors, ce qui est surprenant, c'est que vous dites chaque film et chaque peine d'amour.
Non, non, mais ça a été ça à une époque. Ça fait un moment que j'en ai pas eu un. Ça fait un moment que j'ai pas eu de chagrin d'amour.
Tant mieux. Tant mieux. Mais.
Mais après chaque film, non, tu vois, je suis genre 3 films en retard. Il faut que j'aille me faire tatouer 3 fois.
Bah, on va trouver un rendez-vous, ça va se débrouiller, ça.
Allez, dernière question. Je sais même pas si c'est vrai en termes de réponse, je la trouve tellement dingue. Pourquoi Xavier Dolan a-t-il raté son avion pour Cannes? C'était en 2014.
Il n'avait pas son passeport, il avait pas sa pièce d'identité.
Il était où le passeport? Mais jamais.
Dans une boîte de nuit?
Jamais tu vas trouver.
Il était
dans
déjà dans l'avion.
Il l'a pas trouvé dans sa poche, dans son sac.
Non. Jamais vous trouverez.
Au fond de la valise qui était partie en soute.
Mais non.
Au courrier,
non, c'est un truc dingue.
Ouais, c'est dans les toilettes.
Mais pas loin. C'est pas loin.
Dans les toilettes de l'aéroport.
Au fond des toilettes.
Dans un lieu, dans un objet.
Un objet.
Dans sa valise.
Un objet qui est dans un lieu.
Un objet à la maison.
Faites pas comme si c'était. Oui, c'est un objet à la maison, comme si c'était facile à trouver. Quoi.
Ah non, c'est un objet à la maison.
Mais c'est complètement improbable, jamais vous l'aurez.
Dans un vase.
Non, un hobby. Non, un hobby. Il était où?
Dans le congélateur.
Ah, mais ouais, mais évidemment.
Comment
ouais,
c'est,
ouais,
c'est là où on conserve les passeports.
Ouais. À côté des congélateurs.
Qu'est-ce qui vous a pris?
Ouais, pourquoi?
C'est juste que c'est parce que je suis allé acheter de la vodka, puis il vous donne des. Et pendant longtemps, en fait, comme j'ai pas de permis de de permis de conduire. Qu'est-ce que je m'affiche ce matin? Je suis nu quand c'est pareil.
Le sac en papier avec la vodka.
C'est un sac ouais. Qu'on vous donne quand on achète.
Bien sûr. Qui cache la bouteille de vodka.
Et puis j'ai mis mon passeport dedans parce que c'était la seule carte d'identité que j'avais pendant un long moment parce que j'avais plus de carte d'assurance maladie. Est expirée depuis. C'est une autre belle histoire. On l'a renouvelée. Je l'avais perdue depuis 3-4 ans. Et puis je suis allé pour la faire renouveler. Et puis le mec qui était derrière l'ordinateur, il me dit « Est-ce que vous savez depuis combien de temps la carte est expirée ?» J'ai fait « Non, 9 ans. » J'étais comme « Bon, je pense qu'il me trouvait complètement dysfonctionnel. » Mais bref, c'était ma seule façon de m'identifier, de prouver que j'avais...
Qu'il faut forcément ses papiers pour acheter une bouteille de vodka
ou... Il faut être majeur. Hmm.
Mais vous êtes majeur, enfin.
Ouais, mais c'est jeune.
Écoute, j'ai la grosse barbe et tout, mais c'était en 2014. Je pense que
il fallait encore prouver.
On pouvait encore penser que
vous étiez mineur.
Que j'avais, ouais.
Mais vous avez un très joli grain. Vous avez un très joli grain de peau, c'est pour ça.
Ah oui, ce matin surtout là, comme ça.
Donc, vous avez participé aussi, vous aimez jouer au cinéma, que ce soit en tant qu'acteur ou jouer. Est-ce qu'on joue au réalisateur d'ailleurs? Est-ce que c'est aussi un rôle dans un film, réalisateur?
Ben, je pense, pour moi en tout cas, oui, ça l'est parce que, bah oui, évidemment, c'est un rôle qui se décline de toutes sortes de façons, mais pour moi surtout qui approche la réalisation comme. À travers mon expérience d'acteur, puis mon âme, j'ai envie de dire, mon cœur d'acteur, c'est comme ça que je dirige les acteurs, c'est pas en m'asseyant sur une chaise, puis en débitant des ordres dans un porte-voix, c'est je vais les voir, puis on joue ensemble. Donc j'ai l'impression, oui, de jouer un rôle dans le film, mais qui serait juste hors caméra, puis hors cadre, mais dans la manière dont je dirige les acteurs avec qui je travaille, oui, je me sens comme si je jouais un rôle, oui.
Dans le film, il y a une figure de réalisateur, réalisatrice, c'est la jeune fille qui, à la fois, donne des indications de jeu assez perturbantes, un côté impressionniste, expressionniste, je crois. C'est quoi? C'est une sorte de parodie aussi des directions d'acteurs qui sont un peu désespérantes, parfois?
Je pense que c'est une parodie de la jeunesse qui fait ses dents, ses premières armes. On essaie de réaliser un film.
Elle parle pas très bien, quand même. Elle est...
Ouais, mais ça, c'est génial.
C'est générationnel aussi.
Non, parce qu'on peut pas mettre tout le monde dans le même panier, ouais. Mais au Québec, c'est quelque chose qu'on reconnaît systématiquement, cet accent, et puis c'est cette façon d'amalgamer l'anglais, le français très mal, de massacrer la grammaire, c'est très actuel.
Et puis et d'énerver aussi certaines personnes qui arrêtent de parler en anglais ou arrêtent d'utiliser des mots d'anglais.
Oui, au Québec, c'est conflictuel quand même, la notion d'anglais, historiquement... C'est des conflits dont on hérite systématiquement presque en naissant parce que c'est nos parents, nos grands-parents, les parents de nos grands-parents.
Qui sont battus pour le français et en même temps la culture américaine est très présente.
Oui, est omniprésente, et puis c'est pas comme si on l'accueillait pas, et puis qu'on, qu'on l'a, elle fait partie de nos vies et tout, mais je pense qu'on a très peur que le français disparaisse. Moi, j'ai pas peur qu'il disparaisse, j'ai surtout peur qu'il s'appauvrisse. Donc avant d'avoir peur de parler anglais, faudrait juste parler français un peu mieux.
Clairement.
Puis, alors ça m'énerve, ces conversations.
Ça parle très vite aussi, dans le film. Il faut suivre, il y a un tempo dingue. C'est très rock'n'roll. Ouais. Très, très, très rock'n'roll. Et on est, en effet, on fait partie de la bande. On est dans la bande de potes, c'est-à-dire on s'identifie à l'un des copains, en se demandant d'ailleurs, à la limite, on serait lequel dans la bande. Je sais pas, toi aussi.
Si, je me suis un peu projetée dans celui qui joue du piano. Qui est toujours acerbe, qui fait toujours des blagues un peu décalées.
Ouais.
C'est le personnage que j'aime beaucoup.
Qui est plutôt british d'ailleurs, dans son sens.
Bah, il étudie à Londres.
Ouais. Dans son sens de l'humour, c'est ça.
Il étudie à Londres dans le film.
Quelle est la part de vous qu'il y a dans ce film? Est-ce qu'il y a une part autobiographique? Est-ce qu'il y a vous y retrouvez des potes?
Il y a pas de part autobiographique parce que c'est pas mon histoire d'aucune façon. Mais c'est mes amis avec qui je joue. Ces gens, ils font partie de ma bande dans la vie. Donc il y a ce caractère qui n'est pas nécessairement l'énergie du groupe est très semblable à l'énergie de notre groupe dans la vie, mais ce n'est pas notre histoire. Mmh. Et puis on n'est pas ces personnages non plus. Ils ont leur vie sont assez éloignées de la nôtre.
Mais peut-être pas les traits de caractère à ce moment-là.
Des traits de caractère, oui, se recoupent avec certains traits de caractère de mes amis. Mais je dirais que c'est un film où il y a énormément de mon intimité, en tout cas, avec eux. Ça, c'est sûr que c'est quelque chose que je partage avec le public dans le film. C'est très certainement cette intimité, puis cette personnalité du groupe. Ça, c'est très intime, oui, c'est très personnel.
Et la force de la réalisation, alors, moi, j'ai eu le sentiment de me prendre une claque,
j'ai du mal à
décrire le fonctionnement.
D'ailleurs, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose d'un peu nouveau, un peu différent aussi. Il y a une sorte de rythme effréné, comme ça. On a parlé du début du film qui nous emballe, qui nous amène avec des plans souvent cut où on enchaîne comme ça.
C'est épuisant, votre film.
Il y a un rapport, un peu, une forme de tourbillon aussi de vie, quoi, d'envie, d'insuffler une forme
qui
de force.
Qui relève presque du rythme d'une comédie en termes de réalisation et de montage sans être une comédie.
Non, mais
il y a de la vanne.
Bah, c'est parce que après, tu sais, les comédies qui sont que drôles sans drame, puis les drames qui sont que dramatiques sans être drôles, ça devient.
Alors que la vie est un mélange de tout ça.
On le sait très bien, la vie est douce amère, puis elle est pleine d'humour aussi, de situations ironiques où le sarcasme peut fuser. Puis moi, j'ai toujours fait des films où l'humour est présent. Peut-être c'est celui où il est le plus. Mais c'était essentiel pour moi de et puis il y a une rupture, vous parliez du rythme effréné, mais il y a une grosse rupture dans ce rythme. On est au début avec la bande d'amis, mais après le film devient une chronique sur la vie de ces deux jeunes hommes qui chacun de leur côté de façon assez solitaire commence à repenser donc à ce baiser et à sa signification et au trouble
et
à la confusion des sentiments parce que
le rythme revient quand la bande d'amis revient. Donc c'est vrai que le rythme de la réalisation va avec le rythme de la bande d'amis ou en tout cas de ce qui est vécu par les personnages.
C'est ces deux intrigues qui sont inextricables, elles vont ensemble, et puis c'est pas juste un film sur l'amour puis la romance, c'est un film sur l'amitié d'abord et avant tout, sur les épreuves qu'on peut faire, que l'amitié peut traverser ou non. Et puis donc c'est important pour moi que la bande soit au cœur du film en tout temps.
Ouais, il y a tout aussi, il y a le trouble dont on parlait, il y a le regard des autres aussi, il y a le jugement, il y a la famille, parce que les parents aussi sont là, l'autre cercle entre guillemets autour de la bande est également présent.
Un cercle plus large, ouais.
Ouais, c'est ça, donc il y a toutes ces dimensions qui jouent, et il y a le jugement aussi de savoir, parce que le trouble va avec un sentiment un peu de culpabilité, de comment la bande réagirait, ou comment la famille réagirait, celui qui est en costard cravate, pardon, c'est Maxime.
C'est Mathias.
C'est Mathias. Lui est en couple, donc il est aussi dans un.
Il est plus rangé. Il y a un ordre dans sa vie.
Ouais, et puis il est inquiet parce que sa femme voit le film qui dure que quelques minutes, mais elle voit le baiser et lui ne.
Comment mais ça tout le monde s'en fout sauf lui. Ouais. En
voilà,
fait.
C'est ça.
Tout le monde dans la bande d'amis, tout le monde s'en fout chez les amis, chez les mères, les parents.
Il monte dans les tours tout seul dans la voiture en disant ouais, c'est ça, hein, c'est la scène, hein, c'est ça. Hein,
c'est le film, c'est évidemment.
Et la fille, non.
Mais c'est vous parlez du regard des autres, mais c'est aussi le regard qu'on porte sur soi. C'est ça pour le personnage de Mathias qui est le problème, parce qu'il voit bien que tout le monde s'en fout, puis que personne en parle du film finalement, puis que ça ne fait aucun.
Ouais, il est un peu parano sur le regard des autres.
Il est parano, mais il a peur en fait. Je pense que c'est aussi un film qui parle de masculinité, puis de notre définition de la masculinité, de ce qui peut menacer cette masculinité-là, de ce qui peut la redéfinir dans le regard des autres et dans le nôtre aussi. C'est un film qui parle certainement de ça.
Et il y a une scène aussi quand on parle du regard des autres dans un bus, qui justement illustre bien ce que vous venez de dire sur ce côté doux amer de l'existence, c'est-à-dire qu'en quelques secondes, on passe d'un regard appuyé, d'une tentative de séduction à une forme d'angoisse, d'effroi, avec sans dévoiler
ou de pitié,
oui, et d'inquiétude sur le statut de ce jeune homme qui se cherche aussi. J'ai la sensation qui a remis un peu les pendules à zéro en se disant tiens, peut-être qu'il y a autre chose, où j'avais peut-être déjà des signes dans ma vie me disant que mon chemin est peut-être ailleurs.
Ben, c'est-à-dire que c'est un personnage qui s'apprête à partir en fait pendant 2 ans en Australie, dans ses voyages déterminants, où on va toujours un peu à la recherche de soi. Le voyage en Asie, le voyage en Australie, c'est toujours...
Très tendance.
Il part 2 ans en Australie, bon. Il y a quelques trucs à régler, donc. Non, mais c'est des beaux voyages, mais c'est des voyages qui se veulent souvent assez spirituels, assez pas initiatiques, mais qui démarre une autre époque de notre vie.
Et sur la découverte de soi aussi, parce qu'on se retrouve sans amis, sans famille, à l'autre bout du monde.
Oui. Et lui, il fait à 30 ans, donc c'est dire qu'il a des points d'ancrage assez flous, assez abstraits, et puis il a une relation toxique avec sa mère qui abuse littéralement de lui, qui est violente avec lui, qui le manipule, qui est un personnage
horrible. Parce qu'elle est malade et que lui s'en occupe.
Ouais, c'est une toxico qui s'occupe d'elle en fait. Il est littéralement d'un point de vue légal son tuteur. C'est lui qui administre son argent pour ces gens qui sont finalement inaptes à gérer leur argent parce qu'on sait ce qu'ils vont en faire.
Et elle, c'est la grande Anne Dorval, il faut quand même dire.
Anne qui redevient ma mère après 10 ans. Ouais. Ça fait 10 ans qu'elle était ma mère, donc j'ai tué ma mère, et puis là, elle est une autre sorte de mère. Ouais.
Ce film sort aujourd'hui, c'est Mathias et Maxime, signé Xavier Dolan. C'est toujours un événement quand Xavier Dolan signe un film, et celui-là a cette force supplémentaire, non pas qu'il y ait un match par rapport aux autres films, c'est que justement, il mélange beaucoup de choses dans la vie, dans lesquelles tout le monde pourrait se retrouver, d'ailleurs, que ce soit dans sa propre vie, ou de se dire, je pourrais être le père ou la mère de l'un de ses enfants, ou le pote de l'un de ses copains. Ça donne à réfléchir sur soi aussi, pas uniquement dans le jugement des autres, mais aussi sur soi. Ça sort aujourd'hui, on va continuer évidemment d'en parler avec vous, Xavier, mais là j'ai le meilleur plan de la promotion à vous proposer. Personne ne vous propose ça, on vous pose des questions et vous ne donnez pas les réponses. Ça n'est pas génial la vie quand même, non?
Wow.
C'est Tom Villard.
Enfin. Moi d'enthousiasme.
Where have you been all my life?
Moi d'enthousiasme. En tout cas, je suis très impressionné qu'on reçoive Xavier Dolan. Quand même, il est quand même scénariste, producteur, réalisateur.
Comédien, chanteur, interprète.
Ah ouais, chanteur, je savais pas.
Chanteur.
Je savais pas. Alors, si vous voulez nous chanter quelque chose, là maintenant, allez-y. 3, 4.
5, 6, 7, 8.
Ouais, c'est bien, vous savez compter, mais si vous voulez chanter un petit truc, allez-y.
Céline Dion.
Oui, alors non, on adore Céline Dion, mais ça reste dans la tête toute la journée, on va oublier la chanson. En revanche, vous avez peut-être d'autres métiers inattendus.
Fonctionnaire,
carrément, je ne sais pas. Alors je vous dis, Xavier, il sait tout faire. D'ailleurs, Xavier, tu sais, je suis bien fan de toi. Et...
Je ne sais pas, je n'étais pas préparé à cette imitation.
Ah non, mais je sais pas, oui, je me suis senti chaud, je me suis dit, allez, pourquoi pas, on le tente. Et,
non, c'est de la merde, on recommence.
Ok, je recommence, ok. Tu sais, Xavier, je suis bien fan de toi, j'ai vu tous tes movies, et franchement, à chaque fois que j'ai pris une grande claque dans la gueule, et alors là, c'était comment?
On apprend à faire la différence entre la présence, le charisme, le talent.
Et du coup, là, vous diriez quoi sur un jeu d'acteur? Si par exemple, admettons, vous êtes dans un jury de festival, si vous deviez me donner un prix, là maintenant, ce serait...
Le prix de la meilleure sandale.
Eh ben voilà, mais alors j'imagine qu'en québécois ça veut peut-être dire autre chose,
non,
parce que
sandale,
vu que en québécois les gosses ça veut dire autre chose, donc voilà, bon bah encore une fois vous m'impressionnez parce que vous avez déjà écrit et réalisé 8 films à seulement 30 ans. Et...
20 ans.
Non, Xavier, on sait que vous avez 30 ans, c'est pas grave, vous êtes encore très jeune, mais c'est...
Ça m'a énormément blessé, mais...
Non, attendez, 30 ans, c'est super cool, vous voyez, on a le même âge, ça va, c'est cool, 30 ans.
J'ai une grande violence en moi.
Oui, d'accord, mais vous voulez que je vous dise quel âge, alors
4-5 ans.
Ouais, là, franchement, c'est pas crédible, ça va se voir, hein.
4-5 ans.
Non, je vous l'ai dit, ça va se voir, je suis désolé, mais vraiment...
Une des expériences les plus extraordinaires de toute ma vie...
Ah, c'était votre rapport à votre venue dans l'émission, ça vous a fait plaisir, c'est cool. Et en vrai,
j'ai envie de me taper.
Allez, bah c'est pas grave, bonne émission.
Merci, et on retrouve Tom à Marseille au mois de novembre, du 21 au 23 novembre. Voilà.
Si Xavier ne l'achève pas d'ici
oui, c'est
là.
Vrai.
Oui, à coup de sandales.
À coup de massue. On va parler de ce film. Il est né comment ce film? C'est-à-dire que dans votre esprit, vous avez commencé, Xavier Dolan, à écrire l'histoire de Mathias et Mathieu, de Maxime et...
Allez-y, et Mathias, ce que vous voulez.
Non, pardon.
Jackie et Michel.
Barthélémy et Bernard.
Mathias et Maxime.
Ouais. Vous avez commencé à l'écrire...
Ma tante appelle ça Mathias et Mathias. Je fais non, c'est, ils sont deux.
Sinon, c'est pas drôle.
Maxime et Mathias.
Mathias et Maxime. Vous avez commencé à l'écrire quand? Et sur quel point quel est le point de départ de l'histoire pour vous?
J'ai commencé à l'écrire il y a
longtemps.
C'était à l'automne 2017.
D'accord. Donc pas si longtemps que ça pour un film par rapport au
travail de tournage films pendant des années. Puis parfois c'est pendant des semaines. Ça peut aller assez rapidement.
Et souvent, le point de départ c'était comment?
J'étais justement dans un contexte assez similaire à celui du début du film. On est dans un chalet entre amis. J'allais partir pendant un mois tourner un film à Atlanta. J'allais me sentir forcément peut-être un peu seul et loin d'eux. Et puis on était en week-end. Et puis j'ai eu cette idée tout à coup de deux amis qui sont troublés par un sentiment amoureux inopiné dans leur vie, eux qui se connaissent depuis toujours, et un sentiment qui va déséquilibrer le groupe. C'est là que j'ai eu l'idée, et puis je leur en ai parlé tout de suite, et puis je me rappelle, on était en route vers le casino, et puis on était dans la voiture, puis j'ai juste écrit le synopsis, puis j'ai dit à mon amie, je crois que ça c'est mon prochain film, puis elle a lu, puis elle a fait... Et puis évidemment, je lui ai envoyé 40 pages une semaine plus tard. Elle me fait bon, bah c'était long. Et puis, je suis revenu à Montréal après. Puis j'ai commencé à partager avec mes amis.
Est-ce que ce genre de naissance de projet, de naissance d'idées, voit toujours le jour où il y a des idées qui naissent comme ça et puis on écrit 10, 20 pages et finalement on dit non, on va laisser ça dans un cahier, on le ressortira plus tard. Ça arrive souvent.
Énormément. Oui, il y a plein de trucs.
Alors comment on sait que ça peut aller jusqu'au bout?
On le sent, je le sens. Là, j'ai un truc qui va aller jusqu'au bout. J'ai trouvé un truc, je sais que ça va aller jusqu'au bout.
Parce que les choses s'enchaînent d'elles-mêmes, parce qu'il y a une fluidité dans l'écriture,
les films,
une facilité.
Les films, il faut les financer, puis les fabriquer ouais. aussi, il faut les
bon, enfin, ça, vous avez pas de mal, vous.
Oui, mais parfois, quand on comprend qu'il y a des projets qui sont plus ardus, qui vont prendre des mois ou des années à se ça ralentit un peu l'inspiration, puis les ardeurs artistiques, on a envie de s'investir dans quelque chose qui est fonctionnel, qui a du potentiel. Pas envie d'écrire un truc pendant des mois, et puis que finalement, ça fonctionne pas, donc... Il y a un transfert parfois au niveau de l'inspiration, on fait un transfert et puis on décide de choisir un autre projet, quelque chose qui peut se faire plus rapidement, plus aisément.
Ça sort aujourd'hui, on vous encourage à aller voir ce très bon et beau film Mathias et Maxime, signé Xavier Dolan. Voici Guillermo Guiz.
Salut les amigos.
Salut.
Alors je vais parler d'un sujet aujourd'hui qui nous concerne presque tous autour de cette table, j'ai nommé l'amour, mais vous pouvez aussi écouter Daniel si vous voulez. D'autant que ça concerne un article de Madame Figaro, un magazine dont vous êtes un peu la mascotte, je pense. Combien de fois j'ai pas vu Daniel en couverture pour leur dossier la mode masculine, tout ce qu'il faut pas faire. Hein, je me rappelle du fameux à la plage, le mousqueton, c'est non Daniel, le mousqueton, c'est non. Bref, je suis tombé par hasard sur un papier intitulé Qui quitte qui souffre le plus, où il était question de rupture amoureuse.
Qui
souffre le plus? Donc
il faut que t'articules sans...
Qui quitte qui?
Non,
je peux pas être qui quitte qui pour une fois que je parle bien là.
Ah là, tu parlais bien.
Qui quitte qui souffre le plus? Il était question donc de rupture amoureuse, en tout cas entre mes femmes, voire entre papa et maman. Bon, c'est quand même le Madame Figaro, tu vois. Faut pas exagérer le côté. On est entré dans le 21e siècle et tout. Je rappelle que l'actionnaire principal, c'est Monseigneur Lustiger. Dieu sait qu'il a bougé pour la communauté LGBTQ. Mais là, ces derniers temps, je trouve un peu moins au taquet. Ceci dit, l'article était assez intéressant. Je lisais notamment que pour la première fois dans l'histoire de Sapiens, c'était le plus souvent la femme qui quitte aujourd'hui. Alors qu'il y a 60 ans, c'est généralement quand une femme n'aime plus son mari, elle lui disait « je vais te quitter » et lui disait « non merci ». Et ils restaient ensemble jusqu'à la fin de leur jour. Quoi. Donc c'était vraiment... fallait s'accrocher. Dans les cimetières, ça donnait des beaux caveaux symétriques. Et par ailleurs... Je lisais que le temps de l'homme qui ne montre pas ses sentiments est révolu d'ailleurs, parce que d'après la neuroscientifique Lisa Feldman-Barrett, les hommes sont traversés par autant d'émotions que les femmes. Comprenez, une rupture amoureuse leur fait mal. J'étais là, c'est pas vrai. Sérieux? C'était ça alors qui me donnait envie de crever dans une panne de wifi. C'est parce que j'avais mal. Moi je pensais que pendant mes ruptures, si je pleurais, c'était en souvenir de mon oignon. Tu vois, mais non. Moi, je suis un de ces fragiles. Moi mes ruptures, elles durent toujours plus longtemps que mes relations en fait. C'est terrible. Quand je suis en rupture, t'as pas envie d'être mon ami. Hein. Je te dis, je te lâche pas, je t'appelle la nuit, le matin, t'ouvres ta boîte aux lettres, je suis dedans. Tu vois, je te fais, on m'a dit pour le moment, j'ai besoin de faire le point. Ça veut dire quoi pour le moment? J'ai encore une chance. Tu démarres la voiture, je suis plaqué sur les essuie-glaces. Vraiment, tu vois, elle a pas ouvert mon message. Elle est sur mon cinéma, non? Ouais, mais là ça fait 9h, mon pote. Bah, peut-être qu'elle regarde Show Out, Claude Lanzmann, tu vois. Tu la connais, elle a toujours été férue d'histoire. Ah, bref. Bien sûr qu'on souffre. Enfin, il y a des meufs, c'est quoi? Il y a des meufs, elles te quittent, ça t'arrache littéralement le cœur. Toi, t'as l'impression qu'elle a juste perdu un bracelet, tu vois. Franchement, elle pas, et c'est pas un reproche, Leila. Hein, voilà, c'est pas un reproche. Vous m'auriez dit, Ernesto, j'aime pas les fans de Christiane Taubira, j'aurais compris, tu vois. Je vous aurais présenté Tanguy Pastureau, on serait restés amis, voilà. Mais là, j'ai souffert toute ma vie des ruptures. C'est pour ça que l'amour, moi, tous ces trucs-là de vegan communiste, moi, j'ai arrêté de ces trucs-là, franchement. Dans l'article, je disais que c'est statistique. Aujourd'hui, en France, un couple sur trois se sépare. Enfin, aujourd'hui, pas aujourd'hui. Pas aujourd'hui, quoi. Il n'y a pas 10 millions de couples qui vont se séparer aujourd'hui parce qu'hier soir, ils ont vu ensemble l'émission pour la Terre de Nagui, tu vois, vraiment.
Qu'est-ce que j'ai dit?
En mode, je t'ai vu mettre du verre dans la poubelle à carton, fils de pute, sort de ma vie, non, tu vois, vraiment. T'imagines, n'empêche, 10 millions de ruptures d'un coup. Pénurie de Ben & Jerry's dans les supermarchés, etc. Vraiment, moi qui essaie de chiner 7000 célibataires sur Instagram, tu vois, j'envoie des messages en mode, tu connais un peu la bande originale? Est-ce que je peux te faire rentrer gratuit? C'est comme ça que madame, elles sont là aujourd'hui. Hein. Je finis cette merde et je suis à vous, les filles. Hein. Ah, vraiment, je lisais aussi dans l'article que s'ils se relancent plus vite dans une relation, les hommes se remettent moins bien d'une rupture que les femmes. Et là, je me suis dit, en fait, s'il y avait 10 millions de séparations aujourd'hui, ce qui arriverait surtout, et là, ça va être un peu moins fun, c'est genre un paquet de féminicides, quoi. Et là, on en a 121 depuis le début de l'année, il y en a encore une début de semaine. Et pourtant, le mot féminicide est toujours souligné en rouge dans Word, les amis. Allez, bonne émission.
Merci.
France Inter, Nagui, la bande originale.
Tu confirmes que le féminicide est souligné comme n'existant pas dans Word? Ouais, c'est ça. Le mot n'existe pas.
Absolument.
Alors que Nagui, ça passe. Nagui corrige rien.
Je vois pas le rapport entre les deux. Je vois pas l'enchaînement d'idées.
Il y en a aucun.
Très bien. La bande originale de votre film de Mathias et Maxime, vous l'avez trouvé comment? Arrêtez de me chauffer.
Je l'ai trouvé comment? Oui, ça commence toujours très tôt dans le processus. Parfois, j'entends une chanson, puis il y a une scène qui naît autour, et puis un film après qui débarque derrière. Puis parfois c'est la poule ou l'œuf ou la poule. Et puis après,
est-ce que les acteurs entendent ou connaissent la musique?
Oui, c'est écrit dans le scénario. D'accord. C'est écrit. Telle chanson commence, blablabla, et puis on peut écouter la musique, que ce soit instrumentale, que ce soit... Et puis il y a toujours de la musique qui joue en ambiance sur le plateau, et puis après, il y a de la musique qu'on trouve quand on est en post-montage. Quand on est en
post-montage,
ouais. C'est toujours des scènes emblématiques, en plus, j'ai l'impression, dans ces films, avec une chanson... qui ressort des limbes de nos cerveaux et qui tout d'un coup marque quelque chose d'assez.
C'est des chansons qui fait ça plaisir de les entendre.
Ouais, c'est vrai.
Je pense que c'est bien de plaisir.
La scène dans la bagnole. Tellement fort.
Bon.
Et ça, j'imagine.
C'est une infamie pour vous, français, que j'ai mis ça ou...
Non, du tout. Okay,
parce que je me demande quel est le rapport des.
C'est un tube.
J'adore cette chanson.
C'est un tube. Mais on imagine.
Les gens me regardent comme ça.
Non, parce que moi, j'en peux plus de cette chanson.
Non,
Camaro,
j'adore. mais celle-ci, j'en peux plus.
Xavier, comme tous les grands succès, dès l'instant où c'est passé des milliers de fois à la radio, à la télé et autres, le côté le ça rentre beaucoup dans la tête.
Ça rend fou.
Mais on peut comprendre que ça rende fou la bande de potes dans la voiture.
Bien sûr.
Voilà, et que de l'autre côté de la voiture, c'est-à-dire fenêtre fermée, le couple, c'est
Mathias
très, c'est
roule,
très bien.
Roule à côté d'eux et puis
il sait très bien quelle musique et il sait très bien.
Il
ce
a envie
se passe,
de chanter en fait.
Évidemment.
Il a envie aussi à ce moment, je crois, de s'éloigner symboliquement de ses amis pour prouver quelque chose et puis.
Non, mais comme chercher, je suis en couple avec ma femme et je me fais plus viril.
D'ailleurs, sa première réplique après, c'est bon, il faut en revenir un jour de vos chansons, puis de vos blagues à la con et tout. Et on voit qu'il.
Je grandis, moi.
Ouais.
On va parler de la musique, celle qui peut-être vous a accompagné pendant les années 90. On a imaginé que vous avez sûrement écouté dans ces années 90.
J'irai chercher ton cœur si tu l'emportes ailleurs.
Ouais, je sais prendre des risques, monsieur. Moi, ouais, je suis animateur, je prends des risques.
Et après, c'est Robert Charlebois. Super.
Waouh.
Vous l'avez rencontré déjà, Céline Dion?
Oui. Oui, je l'ai rencontré, je suis allé voir son spectacle à Vegas en 2015. Et puis, je suis allé après, backstage, la voir. Elle a passé un généreux moment avec moi.
Il paraît...
Elle était très drôle.
Est-ce que... Mais elle est très drôle. Il paraît que vieille charrue, ça veut dire quelque chose en, au Québec de différent.
Vieille charrue ?
C'est une insulte ou pas ?
Ouais, ça veut dire c'est genre... je sais pas ce que ça veut dire. Ça veut dire vieille pute, je pense, ou un...
Je crois que c'est ça, ça hein.
C'est,
ouais.
C'est, non, c'est pas vraiment une insulte. C'est le nom d'un festival comme... chez nous.
Non, parce qu'en France, il y a un festival qui s'appelle Vieille Charrue.
Ah, mais j'espère ne jamais y être invité.
Mais c'est
non, je serais... jamais j'irai en compétition à ce festival.
Non, mais il y a eu des Springsteen, il y a eu des groupes ouais. dingues qui sont passés là-bas.
Bah, Springsteen, c'est un peu vieille pute.
Mais je comprends pas,
c'est un festival de musique.
C'est le nom d'une... Ouais, mais c'est le nom d'une ville, Vieille Charrue.
Non, une charrue, c'est une comme
une charrette.
Une charrette.
Il
n'y a rien de, vulgaire en français avec vieille charrue, mais la vanne a été faite parce que Céline Dion va aller dans ce festival. C'est la première fois qu'une artiste, on va dire, populaire chante dans ce festival. Généralement, c'est très pop rock, c'est très Muse, Dépêche Mode, Springsteen, ouais. Dylan et compagnie.
Il y a de plus en plus de gros noms quand même.
Voilà, et là, donc, c'est, je crois que c'est la première fois
c'est
qu'il paye
caché.
Aussi cher pour ouais. avoir une artiste présente. Mmh. Et tout le monde m'a dit, mais Céline, c'est toi, non,
non.
C'était qui ?
Jérémy.
Jérémy, ouais. Jérémy qui a dit, vieille charrue Céline Dion, elle se rend pas compte.
Mais si, c'est ce qui prouve qu'elle a de l'humour, elle doit s'en rendre compte forcément.
Elle le sait.
Bah oui.
Elle le sait. Bah oui, elle comprend le jeu de mots. Enfin, je sais pas.
Et d'accord. Puis, mais qui n'est même pas un jeu de mots en plus à la base.
Non, mais elle comprend le jeu accidentel.
Le jeu de mots, elle le fait elle finalement. C'est elle qui le fait. Oui, parce que le festival, lui, s'appelait comme ça depuis des années. Ah
oui. Avec une tournée qui s'appelle Courage en plus, c'est ça qui est plutôt drôle. Et donc, si on est dans ces années 90, milieu des années 90, finalement, comme Céline Dion, Xavier Dolan, le public a grandi avec vous. Céline Dion, on a des images d'elle, jeune fille. Et bien, vous, au Québec en tout cas, on a des images de vous, enfant. On connaît votre visage depuis que vous êtes tout petit.
Ouais, ben je jouais dans des publicités pour une chaîne pharmaceutique assez, ben en fait la chaîne pharmaceutique d'importance, disons au Québec.
C'est pour ça que le mec était choqué que vous n'avez pas renouvelé votre carte maladie.
c'est complètement incohérent avec ma carrière, en fait.
Et vous appeliez Maxime, déjà.
Ouais, ben c'est vrai, je m'appelais Maxime dans ces publicités. Mmh. Les gens m'en connaissaient dans leur une pince à les joues. C'est très agréable.
Ça, c'est un peu les débuts devant une caméra.
Ouais, ça commence. Mais non, c'était encore plus tôt, quand j'avais 4 ans.
Ouais,
dans
d'accord.
une télésérie qui s'appelait Miséricorde.
Là, 4 ans, ce sont forcément les parents qui vous
Courage,
poussent.
Courage, Miséricorde.
Ouais, tout se retrouve. Ce sont les parents qui vous poussent à le faire. On peut pas dire à 4 ans, j'ai envie d'être acteur. Ça n'existe pas.
Oui. c'est-à-dire qu'il y a eu une proposition, il y a eu une possibilité. Puis ma mère m'en a parlé. Puis je lui ai dit, j'aimerais beaucoup. Je crois que c'était clair que je me dirigeais vers.
Ce domaine-là, ouais.
Ben, ouais. Toujours en train de jouer un rôle, toujours déguisé.
À la maison, vous jouiez des petits spectacles pour la famille aussi ? Quoi ?
Constamment.
C'est vrai ?
Ouais.
Dans les années, milieu des années 2000, peut-être que vous écoutiez.
C'est le bridge qui est extraordinaire dans cette chanson. Le bridge. Ouais, ça va venir plus tard.
Le pont musical, ouais.
Ça revient lentement, puis ça va, il y a une espèce d'effet, genre aquatique, genre sous l'eau, underwater. Mm. Et puis après, la musique revient lentement, puis ça, c'est complètement orgasmique.
Et Madonna, elle représente, c'est une icône pour vous, c'est une carrière incroyable, parce qu'elle est passée par tous les styles aussi, et par toutes les tendances.
Tardivement dans ma vie.
C'est vrai ?
Ouais. Moi, quand j'étais petit, on écoutait ma mère écoutait Céline Dion à la maison. Il y avait très très peu d'albums. Puis c'était Céline Dion. Et puis c'est surtout de la musique francophone. Et puis à un moment, j'ai commencé à découvrir d'autres artistes, à m'ouvrir un peu aux autres possibilités en dehors de Céline Dion.
Ouais, à faire votre propre programmation.
Il y a
quand
même quelques autres artistes qui sont dispo. et Madonna, oui, mais c'est avec cet album qu'elle a fait son entrée dans ma vie.
D'accord.
Après un passage par la pension, on vous retrouve à 16 ans, milieu des années 2000. Vous quittez l'école. Et là, c'est pas simple de trouver des rôles qui correspondent à la fois à votre âge, au rôle proposé. Il y a une forme de décalage.
Je pense que j'étais un jeune adulte assez précieux, puis efféminé, puis j'étais mal dans ma peau, mal dans mon corps. Je me cherchais, mais évidemment, j'avais 17, 18, 19 ans. il n'y en avait juste pas de rôle en fait. C'est pas plus difficile d'en trouver, il n'y en a plus. Il n'y a rien. Et puis moi qui faisais du doublage en plus depuis que j'étais tout petit, j'en faisais plus. Personne m'appelait.
Donc tout s'arrête.
Tout. Et puis j'ai des amis qui sont jeunes et qui étudient pour être acteurs et qui sont occupés le jour, ils sont à l'école et tout, ils font du théâtre. Puis j'ai des amis plus vieux qui sont des acteurs confirmés, qui eux le jour sont sur des plateaux de tournage. Donc moi je suis vraiment celui qui, je suis seul chez moi, puis j'attends.
Et c'est là que vous vous mettez à écrire?
C'est là que je me mets à écrire. En fait, j'ai écrit J'ai tué ma mère, je crois, il me semble. C'est peut-être une façon de, c'est peut-être romantique. Peut-être que je revisite un peu peut-être que je réécris l'histoire, mais je suis presque sûr que j'ai écrit ce film le soir où j'ai quitté l'école. C'était le soir même.
Et vous avez aussi bénéficié d'un peu d'aide, d'être guidé. Vous parlez dans les interviews de Camille Tremblay, par exemple, comme quelqu'un qui vous a un peu escorté au début.
Mon ancienne belle-mère.
Ouais.
c'est approfondi. Elle m'a surtout. Camille Tremblay, ça a été la copine de mon père pendant plusieurs années. Puis,
notre père qui est comédien et chanteur.
Mon père est comédien et chanteur, oui. C'est de lui que je parlais quand même.
Exactement. Et interprète.
Je ne suis pas chanteur, moi. je chante mal. Voilà. Et puis, elle a commencé à me dire, tu veux lire un peu quelques livres ou à part Titanic, t'as envie de voir un autre film ou ça pourrait peut-être un peu te cultiver. Et puis, elle me donnait des livres.
Pour ouvrir l'esprit, oui.
C'est elle qui m'a fait lire Dieu et nous seuls pouvons. C'est cool, j'ai oublié le nom, donc c'est génial. Michel, j'ai oublié, mais en tout cas, c'est un livre génial sur l'histoire de la tradition des bourreaux en France. C'est peut-être un peu étrange.
Mais... Duel.
Dieu.
Adieu.
Et nous seuls pouvons.
Dieu et nous seuls pouvons.
C'est l'histoire d'une famille de bourreaux à travers le temps.
D'accord.
Je l'avais lu, puis ça avait été une telle rencontre avec la littérature, puis avec la langue française surtout, puis ça m'avait complètement modifié. Ouais. Ça avait changé mes goûts, ça m'a changé moi en fait. Et puis les films qui débarquaient avec la leçon de piano,
Michel Folco.
Michel Folco, c'est ça. En fait, je savais, mais j'avais peur de mal prononcer, donc j'ai préféré être.
En même temps, ça s'écrit F-O-L-C-O. Donc c'est pas trop dur au niveau de la prononciation.
Non.
C'est pas grave.
Et votre tante aussi, parce qu'on a parlé de Camille Tremblay, mais Odile Tremblay aussi, c'est une critique
cinéma. C'est sa
sœur.
Exact. Les deux, en fait, ont pris à charge ont entrepris de m'éduquer.
Ouais.
Et puis je leur suis éternellement reconnaissant parce que...
Vous étiez révoltée justement par rapport au choix qu'elle vous proposait. Est-ce que vous affirmiez aussi en disant de façon catégorique ce cinéma-là jamais, ou quel genre de jeune homme vous étiez par rapport au cinéma?
J'avais aucun goût en fait spécifique. J'allais voir des gros films en salle et puis j'avais rarement ouvert un livre à part Harry Potter et tout. Donc c'était une initiation... J'étais très ouvert.
Pas de réticence,
Aucune réticence. Je pense que déjà, par contre, je savais ce qui m'emmerdait.
Mais le cinéma qui vous attirait, c'était plutôt un cinéma spectaculaire. Vous parliez du Titanic, c'était...
C'est des films à très grand public, des films américains, mais des films aussi pour enfants, comme Jumanji ou Matilda.
Mais vous n'étiez pas attiré, vous n'avez pas été éduqué, entre guillemets, vers des films comme François Truffaut ou Godard.
À cet âge-là, mais... Le rapport avec le cinéma, je pense que ça se travaille pour plusieurs personnes jeunes. On entend tout le temps cette espèce de d'histoire très romantique de « j'avais un oncle qui m'emmenait au cinéma chaque dimanche, et puis nous allions voir les films. »
Mais c'est peut-être vrai.
Oui, je sais que c'est vrai. Je ne dis pas que c'est un mensonge. Moi, ça n'a existé dans ma vie qu'à partir de l'âge de 15-16 ans, à travers ces deux femmes. C'était parfait comme ça, mais très rapidement après j'ai commencé à en faire des films. Donc la période dans ma vie où j'ai été initié à un certain cinéma était très courte, et puis ce qui fait qu'il y a des immenses lacunes quand même dans ma culture. Il y a des films que j'ai pas vus, vous pourriez jamais imaginer quel film j'ai pas vu.
Et vous continuez à rattraper le retard ou pas?
C'est long. Il y a des gens qui passent des années à regarder des films avant d'en faire, et puis après on a l'impression qu'ils les ont tous vus, c'est épuisant.
Ça fait pas de meilleurs films pour autant.
Non, mais j'ai l'impression qu'il faut un minimum de culture quand même, puis parfois j'ai l'impression que je suis en deçà du seuil pour quelqu'un qui réalise des films. Il y a des choses que j'ai pas vues qui sont assez inacceptables, je pense.
On continue de parler avec Xavier Dolan de Mathias et Maxime. Le film sort aujourd'hui, film sur aussi l'amitié, la bande d'amis et les copains. Justement, nous avons demandé à Michel Armand, merci Michel, de venir à ce micro. Vous avez publié Aimons-nous encore la liberté chez Plon. Vous avez écrit Le lien d'amitié également aux éditions Plon. Comment définir l'amitié? C'est une forme d'amour?
L'amitié, le mot amitié vient du même, la même racine.
Mais étymologie, oui.
L'étymologie est exactement la même. Mais, comme le dit une chanson, entre l'amour et l'amitié, il n'y a qu'un lit de différence. Donc c'est presque rien, mais c'est en même temps beaucoup de choses. C'est un lien qui, dans notre culture,
a... Sauf que maintenant, il y a les amis sexuels aussi, qui viennent se mettre entre l'amour et l'amitié.
On parlera de toi après, Nagui, déjà.
Merci. Merci de me rendre la parole.
Il y a plusieurs catégories.
Je vous demande d'arrêter de m'interrompre.
Comme on est un peu dans une forme de fluidité des relations aujourd'hui, on peut admettre qu'il n'y a pas, c'est pas que binaire. Non, mais je veux dire, il n'y a pas que amour ou ami. Il y a des trucs intermédiaires.
C'est pas toujours aussi clair.
D'ailleurs, dans le film, le doute vient s'immiscer dans votre esprit, ça veut bien dire qu'on est dans
film,
une...
Ouais. C'est le sujet du film, bah oui, c'est complètement. C'est la je suis d'accord avec ce monsieur dit, c'est le lit de différence, c'est bien dit quand même.
C'est une belle formule, oui.
Bah, c'est assez exact. Quand on revient fondamentalement à ce que c'est... Pardon, je...
Non, non, je vous en prie, parce qu'effectivement, c'est le sujet du film, et en même temps, vos deux personnages sont à la fois amis... Et sont tentés de devenir amants. Enfin, il y a quelque chose du désir qui tout d'un coup les a saisis.
Ouais. Bah, c'est plus la confusion des sentiments que le désir en fait, parce que justement ils sont pas homosexuels et ils réalisent que c'est encore. Et je pense que c'est plus troublant d'avoir un sentiment amoureux envers quelqu'un et qu'il soit inexplicable plutôt que un simple désir qu'on peut, disons-le, assouvir en juste en couchant avec quelqu'un et en se disant bah écoute, on essaie, on voit, on explore et puis après c'est réglé. Là, c'est plus complexe parce qu'il n'y a pas de finalité en soi à ce sentiment. Il ne peut être assouvi que par une romance partagée ou et c'est ce que les personnages n'arrivent pas à comprendre en fait. Comment ils vont pouvoir vivre cet amour qui débarque dans leur vie de façon vraiment inopinée.
Oui, mais il va rester platonique.
Il va rester platonique.
Vous restez du côté de l'amitié. La différence entre l'amour et l'amitié, c'est que l'amour, c'est un peu un coup de foudre. C'est un petit peu ça quand même que vous montrez. Il y a quelque chose, un petit peu de, il y a une flamme d'un coup à l'intérieur de cette scène qu'ils doivent tourner. Mais l'amitié, c'est plutôt un coup de sympathie. Et alors entre la flamme et la sympathie, c'est pas tout à fait la même chose.
Il peut y avoir des coups de foudre amicaux.
Moi, je suis un gros coup. Moi, je suis un peu amoureux de mes amis.
Un gros coup de sympathie, si vous voulez. L'amitié, ça demande une sorte de volonté après le coup de sympathie. Alors que le coup de foudre, c'est une flamme immédiate.
Michel, j'aime bien ce que vient de dire Xavier Dolan. Vous dites, moi, je suis amoureux de mes amis.
Ouais.
J'aime bien cette formule parce que c'est vrai que c'est beau de parler d'amour en amitié.
En tout cas, ce que je veux dire, c'est que je ressens un amour infiniment plus grand envers eux que j'ai pu ressentir envers des amis plutôt dans ma vie. Tu te fais des amis toute ta vie, puis tu te dis, écoute, c'est ça l'amitié. Et puis à la fin de la vingtaine, je me suis fait des amis. Ce que je ressens pour eux, c'est tellement fort, c'est tellement... je sais pas, c'est la même chose que ce que j'ai pu ressentir pour des amants, mais c'est juste que voilà, on couche pas ensemble.
Sauf que ça,
un malentendu, c'est-à-dire fin de soirée, c'est trop.
Après, quand on a bu,
Mais c'est parce que au fond, il y a dans l'amour, au-delà de la séduction et des premiers moments de la passion, il y a les vertus de l'amitié qui doivent irriguer l'amour, c'est-à-dire à la fois la bienveillance et la réciprocité. L'amour est une quête de réciprocité, toujours un peu renouvelée. L'amitié est une réciprocité immédiate. Vous pouvez par exemple vous dire amoureux de quelqu'un sans retour. L'autre personne n'est pas amoureuse de vous.
Ah, ça.
Mais vous ne pouvez pas dire l'ami de quelqu'un si l'autre n'est pas
de retour. Hein.
Donc l'amitié, c'est forcément la réciprocité. Et les grandes histoires amoureuses, les couples qui durent, sont des couples justement qui cultivent la réciprocité et qui cultivent la bienveillance. On veut forcément le bien de l'autre. Pas toujours évident dans l'amour. Immédiatement, dans l'amour, on veut souvent le bien de soi-même.
Ouais. Mais ça fait penser à la chanson de Stéphane Echard, Je n'ai pas d'amis comme toi, qui est une chanson d'amour.
Oui.
De dire à sa femme ou à son homme, au-delà de je t'aime, et en plus, je n'ai pas d'amis comme toi, ça rajoute une couche de sentiment.
Ce sont, encore une fois, les plus belles histoires d'amour, ce sont celles qui associent. c'est quand Eros.
On n'a pas entendu, Xavier, ce que vous avez dit.
Qu'on vit entre amis.
C'était passionné.
C'est le bon. Si vous voulez, dans l'amour, Eros a toujours quelque chose à voir avec Eris. Eris, c'était la discorde, en quelque sorte. Et dans l'amitié, il n'y a pas de discorde. La moindre discorde dans l'amitié, on le voit dans votre scène finale.
Vous racontez la fin du film.
Ne dites pas qui a tué dans le salon.
Je n'irai pas jusque-là.
Avec la clé à molette, s'il vous plaît.
Il y a un peu de violence à un moment.
Non, mais dans le film, ce qui est aussi beau, c'est de voir que cette amitié qui est semblable à de l'amour peut muter par un rapport charnel. Parce que c'est aussi ça, c'est tout d'un coup, c'est la découverte à travers un baiser. Et d'ailleurs, c'est la seule scènes qu'on voit pas finalement, qu'on a terriblement envie de voir, pour voir éclore tout d'un coup dans le cœur de l'un et de l'autre un truc genre qu'est-ce qui se passe ? C'est ça qui est magnifique.
Oui, mais en fait la notion du baiser là-dedans c'est
elle n'est pas importante. Elle n'est pas si importante que ça.
Mais en même temps, c'est sans ce baiser, il n'y a rien.
Ouais, ça déclenche.
Alors qu'ils sont amis depuis. Je ne sais même pas si c'est réaliste, en fait. Vous pouvez peut-être m'éclairer là-dessus. Je ne sais pas si c'est réaliste de penser que. Est-ce que c'est possible, en fait, cette histoire que j'ai racontée? Est-ce que c'est possible?
C'est possible.
Non, mais c'est possible parce que je me pose la question.
Xavier,
je pense que c'est
mais on s'est embrassé avec Nagui une fois, il ne s'est rien. On n'y a même pas pensé après.
Ceci dit, j'étais évanoui avant que tu me le fasses.
Moi, c'est après t'avoir embrassé que je suis évanoui.
Non, c'est possible, je vais vous dire pourquoi, parce qu'on a oublié un détail important. Ils ne se souviennent pas, enfin, les deux ont un trouble aussi de savoir est-ce qu'ils s'étaient embrassés déjà ou pas au collège.
L'un s'en souvient, et l'autre, l'autre le refuse.
Voilà.
En fait, les couleurs.
Et donc, c'est de là, pardon, c'est là où je pense que c'est crédible. C'est là où je pense que c'est crédible parce qu'il y en a un qui est resté peut-être troublé depuis ce baiser qui a eu lieu au collège et l'autre avait mis un voile dessus.
Il n'est pas resté troublé, juste il s'en souvient. La différence entre Mathias et Maxime dans ce film est très simple, c'est que Mathias a tout et Maxime n'a rien. Et pour et est-ce que c'est un point de vue sociétal? Je pense pas. C'est pas une affirmation d'une position quelconque par rapport à ça. Mais je pense que Maxime a la curiosité que le confort empêche parfois. Ouais. Quand il y a un ordre établi aux choses, on se remet moins en question, on remet moins en question les choses, on remet moins en question sa vie, ses choix, ses préférences. Et puis pour Maxime...
Non, puis il y en a un qui vit sa vie dans sa société avec les codes de la société, que ce soit en termes de travail, en termes de couple, et l'autre qui est en train de remettre en cause toute sa place dans la société, qui veut partir justement à l'autre bout du monde et qui ne sait pas où il en est.
Il y a plus d'espace dans sa vie. Hein.
Et donc lui, il y a l'espace dans sa vie pour cette possibilité. Il se dit peut-être que finalement, c'est ça en fait qui manquait à mon existence et qui explique qu'elle soit aussi médiocre.
Michel Armand, je voulais aussi que l'on évoque la bande d'amis, parce que l'amitié, on l'a bien compris, et l'amour entre deux personnes, mais la bande d'amis, ça répond à des codes, à des lois, à des règles encore plus différentes et compliquées?
Alors, je ne sais pas si ça répond tout à fait à des codes, parce que je crois que ça crée ses propres codes. Mais en revanche, moi j'observe que c'est un phénomène relativement récent.
C'est
un phénomène relativement dont on parle beaucoup, les bandes d'amis. Alors, il y avait longtemps, l'amitié, ça a été une sociabilité avec des lieux particuliers, par exemple le café, le club de sport, etc.
Ou le code vestimentaire de reconnaissance.
Il y avait des codes préétablis, effectivement.
Ça a toujours existé. Et puis aujourd'hui, maintenant, il y a la manière de faire ses checks, il y a l'endroit où l'on fait, il y a les réseaux sociaux qui créent leur propre groupe.
Voilà, alors ça existe toujours. Ouais. En revanche, ce qui me semble nouveau depuis, je sais pas, une vingtaine d'années, ça se voit beaucoup au cinéma et dans les séries en particulier, c'est effectivement la vie en commun, la vie en presque en communauté, les appartements partagés, etc.
Friends, quoi.
Voilà. La série Friends, voilà, Friends, qui en a donné un petit peu le modèle. Et là, je crois que c'est un phénomène d'aujourd'hui pour deux raisons. La première raison, très vite, c'est que peut-être l'amour n'est plus tout à fait un destin dans l'imaginaire
des gens.
J'aime
bien, très vite. Le mec est juste...
C'est un peu... Alors écoutez, on peut parler. Vous avez évoqué tout à l'heure dans votre chronique le fait qu'un couple sur trois se sépare. On peut penser aussi à la guerre des sexes, enfin, etc. Il y a tout de même des signes dans nos sociétés qui font que l'amour est peut-être une étape, c'est peut-être pas là ce qui va rendre.
Et pas l'accomplissement ultime non plus.
Voilà, exactement. Voilà. Et je crois que là, l'amitié qui a longtemps semblé un sentiment tiède a repris du poil de la bête, si je puis me permettre. Mais il y a une deuxième raison, c'est qu'on vit dans une société extrêmement difficile. La société de la mondialisation est une société, au fond, qui crée beaucoup d'angoisse. Et l'amitié, disons le groupe d'amis, la bande, clique, comme vous dites dans le film. J'ai retenu le mot clique, là, qui me paraît très très juste. C'est une sorte de protection contre l'hostilité du monde. Et donc, ça me paraît être un phénomène nouveau.
J'avais
pas remarqué le mot clique, moi non plus.
Ah, j'ai entendu le mot clique. Moi, je l'ai noté.
C'est vous qui l'avez fait, Xavier, ce film ou pas?
Absolument.
Vous avez regardé quel film? Il y a le mot gang, mais le
mot gang paraît un peu hyperbolique.
C'était hyperbolique.
Merci, Michel Armand, d'être venu. Aimons-nous encore la liberté? Une bonne question aussi. On aura l'occasion d'en reparler ensemble. C'est publié chez Plomb. Bonjour, Tanguy Passureau.
Bonjour.
Tanguy, vous allez nous parler, vous, du voile.
Oui, parce que j'essaie d'alterner un sujet léger, un sujet plus lourd. Hier, j'ai fait le retour de Camaro. Aujourd'hui, c'est le voile. Demain, les asperges. Vendredi, le racisme. Ah, le voile. On en a déjà plus parlé cette semaine que du dépistage du cancer de la prostate sur France 3. Le voile, ça nous divise, Nagui. Mais si c'était pas ça, on trouverait autre chose.
avec Léla Kadokoudadi.
Bonjour à tous.
Daniel Morin.
Bonjour Nagui.
Tom Villa.
Bonjour.
Guillermo Riz. Tanguy Pasturo. Oui. Et notre invité Xavier Dolan. Mathias et Maxime sortent aujourd'hui au cinéma. Le premier rôle, vous y tenez le premier rôle aux côtés de Gabriel d'Almeida Freitas. Je n'ai pas donné le casting. Anne Dorval, Pierre-Luc Funk, Samuel Gauthier, Adib Al-Khalidé, pardon, Catherine Brunet, Antoine Pilon. L'histoire de ces deux amis d'enfance au milieu d'une bande de copains dans un chalet en vacances. Presque un début d'histoire vécu, comme vous l'avez dit. Puis après, sur l'idée d'un pari ou d'un tepacap ou chiche que tu fais ci, tu fais ça, non, sur un jeu d'ailleurs, comme sur un gage, ils se retrouvent à s'embrasser pour un court-métrage de la sœur
d'un des membres de la bande. C'est toujours très long de présenter cette histoire.
C'est la sœur Rivette.
C'est l'histoire d'un jour, il entre dans...
Et puis d'un coup, tout fait que finalement, la question vient se poser à ces garçons sur non seulement leurs préférences, leurs goûts, leur vie sexuelle, mais quel genre de vie aussi ils ont envie d'avoir, et le regard qu'ils ont sur eux-mêmes. Comment eux se sentent vis-à-vis de... Il y a beaucoup d'images de miroirs et de reflets.
Dans le film,
ouais.
Oui, on me l'a dit, j'ai pas, mais c'est involontaire. Involontaire.
En même temps, ça va dans le sens.
C'était pas très calculé, en tout cas.
Ouais. C'est psychanalytique, alors.
Ouais, probablement, mais c'est vrai que la seule fois où on aperçoit ce court-métrage qui a foutu
qui
la
trouble.
Merde... Qui
fout, ouais. On est dans un reflet aussi.
On est dans un reflet, on l'aperçoit derrière le personnage dans un miroir, mais sinon on le voit jamais
directement. Ouais. Ce trouble-là, le regard des autres, c'est aussi une manière de se demander, quand on a une trentaine d'années, si la vie que l'on a choisie est la bonne, s'il est encore temps de changer totalement de vie, de quitter la bande pour aller à l'autre bout du monde, ou de quitter sa femme pour vivre pleinement une histoire d'amour. Il y a aussi des changements géographiques et des changements affectifs.
Ça aurait pu être un baiser, ça aurait pu être autre chose, mais je pense que c'est l'occasion de se questionner sur qui ils sont, mais aussi sur là où ils s'en vont, là où ils vont. Leur destin, leur effectivement remettre en question non pas juste leurs préférences d'un point de vue romantique, mais aussi leurs préférences en général dans la vie. Est-ce que c'est pas l'heure à tomber?
Oui, mais on parle du démon de midi. On dit que à 40 ans les personnes se posent des questions sur leur parcours, leur vie, leur choix. Là, ça arrive beaucoup plus tôt dans cette bande d'amis. Ils ont une trentaine d'années, tous.
Mais en tout cas aujourd'hui, pour un jeune adulte, moi, je à l'âge de 30 ans, j'envisage le reste de ma vie. Je me dis bon, on sait que la vingtaine, on explore. Souvent les gens étudient. Moi, j'ai pas étudié, mais on explore, on essaie. Moi, j'ai eu une vingtaine qui a été assez riche. Je me sens privilégié. J'ai fait des projets qui m'ont inspiré, qui m'ont fait voyager. J'ai rencontré des gens. Bla. Mais après, il y a le reste. Ça va être quoi? Ça va ressembler à quoi? Où est-ce que je m'en vais? Est-ce que je change? Est-ce que je reste? Je reste qui je suis. Mais est-ce que je change de style? Est-ce que là, j'ai envie de jouer plus que de réaliser. On envisage quand même le début du vrai âge adulte, celui qui n'est plus explorable, mais celui qui où on n'en est plus un espèce d'essai. Les choses se confirment, les choses se solidifient, puis on s'installe dans quelque chose.
On construit.
Ce sera dans quoi? Dans quoi est-ce qu'on s'installe?
Mathias et Maxime, très beau et très bon film signé Xavier Dolan qui sort aujourd'hui au cinéma. Voici Tanguy Pasturo. On est dans une ambiance tendue en ce moment dans notre pays.
Oui, l'ambiance est plus tendue qu'un petit slip sur les fesses de la mère Kardashian. Vous mettez la télé, tout le monde s'engueule. On se croirait à un dîner chez les Le Pen. Prenez CNews. C'est la seule chaîne où le volume sonore des pubs est inférieur à celui de l'antenne. Tout le monde braille. Vous passez sur C8 TPMP, ça hurle. Vous mettez BFM, Alain Duhamel furieux jette ses dents sur Michel Cotta qui tente de l'étrangler avec ses bas de contention. À part C'est à vous, où Marc Lavoine mange tranquillou des petits pois face à Patrick Cohen qui se dit flûte, dire qu'il y a 3 ans je présentais la matinale d'Inter et là je partage une loge avec Pierre Lescure en soupule. La télé est devenue folle. Et en ce moment, un débat prédomine à la télé, c'est l'islam. Lundi, CNews, Éric Zemmour et Mohamed Sifaoui se sont écharpés sur l'islam. Juste avant, Laurence Ferrari a défoncé Julien Odoul, le RN, qui avait défendu à une dame, qui avait demandé à une dame voilée au conseil régional de Bordeaux de le retirer. Il s'est défendu, clash, buzz, 12 ans qu'on n'avait pas vu Laurence Ferrari, hein. C'était notre Dupont de Ligonnès au féminin. Là, elle s'est tapée la une de tous les sites web. Le lendemain, Jean-Pierre Elkabbach, le père Fouras de l'info, invite BHL. De quoi parle-t-il? De l'islam. Alors que franchement, il y a d'autres choses à demander à BHL, comme où achetez-vous vos chemises? Parce que même dans le désert libyen, elles sont nickel. Alors que moi, si je fais coucou une fois à un pote, il y a tout un côté qui froisse. En politique, c'est pareil. La République en marche, avant, ils étaient sages, tous alignés derrière Macron. Comme quand on a fait la chenille au mariage de mon oncle, mais sans le degré d'alcoolémie, parce qu'ils sont aussi fun que des amish. Et là, ils se déchirent à cause de l'islam. Jean-Michel Blanquer est contre le voile, ça se voit, parce qu'il n'en porte jamais. Darmanin et Le Maire aussi. Or, Sibata Ndiaye est pour, mais également Cédric O, secrétaire d'État au numérique. Hein, l'homme qui, quand on l'appelle, on fait « Oh !» et là, tout le monde se retourne. C'est très compliqué.
Non, il est
au numérique, lui, mais il a un avis sur tout. Hein. Le voile, la PMA, la cuisson des nouilles, le retour de Camaro. S'il vend ses cordes vocales sur le bon coin, même à 2 euros, personne n'en voudra parce qu'elles sont trop servies. À droite, Christian Jacob, ce solide gaillard à nuque longue qui vient d'être élu chef des Républicains. Ce qui va pas être éreintant parce qu'ils ne sont plus que 14. Et ben, sa première prise de parole, avant même de dire bonjour, ça a été pour parler du voile. Et puis Macron, le pauvre, il s'est tapé un an de gilet jaune, on aurait pu le laisser se reposer. Vous avez vu sa tête récemment? Mais il a pris un coup de vieux, on dirait Hugo Frey. Quand il se balade dans la rue, tous les nécrophiles le suivent avec le pantalon sur les genoux. Il est claqué. Et hier, un collectif de 80 personnalités, c'est-à-dire Omar Sy plus 79 anonymes, l'a sommé de condamner fermement Julien Odoul du Conseil régional. Et ça ne va pas passer, parce que Macron, il est fier comme un coq qui aurait réussi à glapir du Céline Dion. Quand Édouard Philippe lève le doigt pour tenter de l'interrompre, il le lui coupe avec un sécateur et le jette à son chien. Mais la pression est telle qu'il va être obligé de s'exprimer lui aussi.
Mais alors, que va-t-il dire?
Eh ben rien, Nagui, parce qu'on ne peut rien faire. D'un côté, on a les anti-voiles et de l'autre, ceux qu'ils portent. C'est impossible de réconcilier ces gens. À moins de légaliser le cannabis, c'est d'obliger tout le monde à fumer. Ce que les éditeurs de Skyrock appellent vie normale. Parce que là, on est tous à cran. Et pour l'instant, ces news permettent de canaliser la rage des gens. On s'excite seul dans le salon. Mais si demain, la chaîne cesse d'émettre, parce que Jean-Pierre Elkabbach aura débranché l'antenne pour mettre son sonotone à recharger, eh ben, ce sera la guerre civile. Avec à Paris, couvre-feu le dimanche de 11 à 13 heures pour bruncher. L'islam est donc la source de nos problèmes. Comme me le disait Guillermo Guise avant l'émission, ajoutant « c'est bien simple, quand je me promène à Bruxelles, je ne reconnais plus ma ville ». Or moi, j'en ai assez d'entendre les gens se disputer et n'aboutir à rien. Je suis un homme d'action. Je propose donc d'interdire l'islam. Et dans un souci d'équité, les autres religions. Fini ! Quand un petit neveu désignant Jésus sur la croix demandera « qui est ce monsieur en caleçon tonton ?», on lui répondra « Sébastien Chabal en Springbank en train de faire l'idiot hein ». En plus, niveau immobilier, si on découpe les lieux de culte en petits F2 un peu cosy, ça fera un appel d'air. On interdira les signes ostentatoires, parce que pardon, mais la croix, à part à l'oreille de George Michael en 87, ça fait pas rêver. Certes, ça permet de repousser Cédric Villani, le Dracula de la rive gauche, mais enfin c'est tout. La kippa, on interdit, ainsi que le falafel et le concept de la mer un peu trop présente. Le voile terminé, ainsi que l'ensemble des vêtements. On vit nus, tous. Et même si au départ, il y aura des jalousies, parce que vous ne me connaissez pas si bien que ça, eh bien, on s'y fera très vite. Puis on fera une grande ZAD, où on se nourrira de racines de chêne. Et là, Julien Odoul hurlera « ça, c'est de la laïcité !» avant de faire l'amour avec Diams, nu, qui criera « je me sens tellement bien comme ça !» Éric Zemmour et Nagui se caresseront. Non. Tandis que Greta Thunberg, dont les nattes cacheront le pubis, dira « la solution contre le réchauffement, c'était juste se dessaper, mais qu'est-ce que je suis conne !» Il n'y aura plus de communauté, plus de signes d'appartenance, plus de division, juste des corps dans les fougères, comme au bois de Vincennes le soir, mais gratuit. Parce que si on en retire notre apparence, nos dogmes, nos certitudes, nos fringues, on est tous pareils. Enfin... sauf moi.
Merci, Tommy.
La bande originale, Nagui, sur France Inter.
Allez, des questions concernant l'actualité culturelle en ce moment. Là, vous pouvez tous essayer de répondre. Vous aussi, Xavier Dolan, si vous avez une idée. Qui a déclaré les films Marvel, ce n'est pas du cinéma?
Ah oui,
Scorsese. Scorsese.
Exactement. Ah, Scorsese.
Il y connaît quoi, lui?
Vous en pensez quoi des films Marvel, avant de savoir ce que vous pensez de la déclaration de Scorsese?
Moi, j'aime beaucoup les films Marvel. Ça me divertit, c'est un break pour moi. Je pense qu'on cherche un échappatoire et puis il nous le donne.
Et alors pourquoi après, Scorsese dit c'est pas du cinéma? Il trouve que c'est trop fake, c'est trop... que des effets spéciaux, pas d'histoire.
Il y a pas d'art dans ces films. C'est un artiste, Scorsese. C'est quelqu'un qui restaure les films des autres. Il les a tous vus. Il a une filmographie absolument épatante, diverse, riche. violente, mais c'est, j'adore ce qu'il fait et je comprends en fait que quelqu'un qui a une telle notion de du cinéma et de l'art regarde Marvel et fasse. Après, je pense pas que ça veut dire qu'il ça lui plaît pas. Enfin, bon, j'imagine que ça veut dire que ça lui plaît pas. Mais c'est vrai que quand tu regardes ces films, il reste plus grand chose quand même d'un geste artistique. Et en plus, ils ont tellement de pognon, ils ont tellement de fric. Et puis tu les regardes et puis ils sont laids. Laid, mal éclairé, mal, les costumes sont moches. Vous aviez tellement d'argent, les amis, vous pourriez quand même vous permettre.
C'est vrai que c'est votre truc, les costumes. Hein.
J'adore les.
Ouais, ouais, vous occupez de ça.
C'est essentiel, les costumes. Quand on fait un film, ça raconte une histoire sur un personnage. Avant même qu'il ait ouvert la bouche, c'est des choses sur lui qui. Je déteste les réalisateurs qui évacuent cette. Qui évacue les costumes comme étant un truc
un accessoire.
Ouais, non, mais un truc qui j'y connais rien, c'est pas mon département, c'est pour une femme ou c'est pour
c'est le personnage. Le costume, c'est le personnage.
Oui.
Nous aussi, on est très costumes. D'ailleurs, Tom et Daniel, aujourd'hui, ont tenu à rendre un œil au Québec.
Ils sont très bûcherons, ce matin. Une petite révolution vient de toucher la série animée pour enfants Star Wars Résistance. Quelle est cette révolution?
C'est par rapport... Il y a une femme qui...
Non.
Star Wars Résistance, donc il y a une série. Okay.
Ouais, donc ça concerne un duo de personnages existants.
Jean Moulin,
c'est 3PO R2D2, non?
Il y a une relation d'amour entre deux femmes ou deux hommes?
Exactement.
Exactement.
Wow. Les producteurs viennent d'annoncer officiellement que le duo d'amis était en fait un couple gay. Véritable révolution, entre guillemets, dans le monde de la fiction. Les personnages concernés sont Orca et Flix, pour ceux qui...
Flix est gay?
Orca et Flix. Moi, je l'avais vu depuis le début.
Lui aussi, il a des secrets. Il n'y a pas que toi qui a l'autobiographie.
Dans une autobiographie, Elton John raconte une bagarre qui a failli avoir lieu entre Richard Gere et Sylvester Stallone. Quelle était la raison de la bagarre?
Richard Gere, c'est Richard Gere en français.
Oui, c'est ça.
On dit comme ça, hein?
Richard
mais
Gere.
Mais du coup, on ne comprend pas, là.
Richard Gere.
Non, mais c'est bon.
Julien Roberts.
Pourquoi ils ont failli se battre? Richard Gere et Sylvester Stallone.
Gere quand même.
C'est Richard Gere.
Salona. Cindy Crawford.
C'est pas Julien Roberts, non. C'est une femme.
Michel Pfeiffer.
Les deux voulaient séduire la même femme.
Ah ouais. Donc c'est après une actrice, une chanteuse.
C'est Elton John qui raconte.
Lady Di.
Exactement.
Ah ouais.
Exactement. Bravo. Les deux comédiens étaient tombés sous le charme de Lady Di lors d'un dîner. Stallone, jaloux du succès de Richard Gere auprès de la princesse, a failli...
tellement d'anomalies en si peu de temps. J'ai entendu tellement de noms. Je sais même plus de qui on parle.
Il y a une moquerie de la part de Xavier Dolan qui est au Québec, qui traduisent tous les films. Dirty Dancing, c'est Danse Lascive et tout. Donc,
Danse Lascive. Ouais, Danse Lascive.
Ah ouais.
Ouais, non, c'est vrai qu'au niveau de la traduction des titres, parfois c'est.
Pretty Woman, c'est quoi alors?
Ah, ça doit être jolie femme, genre.
Ah ouais.
Non, je crois que c'est...
Grease, c'est quoi
qu'on savait?
Brillantine.
Voilà, ah, donc on va redescendre notre thermostat.
Non, mais juste, c'est Gere, c'est pas Gere ou Gere. Voilà, c'est tout, c'est
on est
Gere.
D'accord. On est tellement d'accord tous les deux, alors que toi, t'es pas un gentil.
Mais c'est des gens cons.
Je voulais.
Non, mais les gens comprennent pas.
Tu as raison.
C'était une intervention pertinente.
Moi, je soutiens Tanguy.
On a dit beaucoup de choses, mais j'aimerais avoir votre explication, Mathias et Maxime, sur la tache de vin sur le visage de Maxime, qui a son importance, puisque là, encore une fois, que vous le voyez ou non, il y a un miroir, il y a un reflet, il y a cette, il la voit, il la voit plus, elle est là, elle est plus là. C'est une souffrance pour lui.
Oui, bah, je pense que pour n'importe qui est affublé d'une tache aussi, elle est très grosse, c'est la moitié de son visage presque, ouais. C'est assez imposant. Je pense que ça raconte une histoire presque immédiate sur eux, qui sont, d'où ils viennent, leur passé. On devine les moqueries à l'école, les brimades des camarades, des gens qui font des mauvais jeux de mots.
C'est même une insulte, la tâche.
C'est pour vous, c'est la même chose. Une tâche, c'est un boulet. Un peu.
Ouais, c'est
tâche, pauvre tâche. Ouais.
Voilà. Évidemment, cette insulte arrive à un moment horrible parce que elle devient devient une humiliation totale pour le personnage.
Le point de départ d'une bagarre.
Une trahison absolue. Exactement.
Mmh. C'est une tâche de naissance, donc ça le relie aussi de permanence à sa mère aussi, à sa famille.
Puis aussi, évidemment, dans sa vie, je pense qu'il se sent assez... Une tâche, justement, assez... et puis je pense que... Mais c'était aussi une façon de mettre en exergue le fait que ce personnage, quand il est avec sa bande d'amis, plus personne la voit, plus personne la calcule, cette tâche. Et je crois que c'était une sorte de mesure, si on veut, de la complicité qu'il ressent avec cette bande et d'acceptation qui qui la caractérise, parce qu'ils s'envoient tout le temps des vannes, ils sont tout le temps en train de s'insulter, de s'invectiver, mais finalement ils s'aiment beaucoup, ils se protègent, ils s'affectionnent énormément.
Passer de cette tâche à Daniel Morin, il n'y a qu'un pas.
Un jour c'est parti, hein. Bon bah moi j'y comprends plus rien en tout cas. Non, on nous bassine avec l'environnement, faites ceci, non, ne faites plus cela. France 2 fait une émission spéciale avec Nagui, très chouette cette émission, hein. J'ai regardé de bout en bout, hein. Une émission où il s'est passé un truc hallucinant. On y reviendra à l'occasion d'un petit débrief d'ici quelques minutes. Mais bon, bref, on est d'accord pour dire que, mortel, hein, que l'utilisation de la bagnole, c'est pas ce qu'il y a de mieux pour la santé de la planète, accessoirement, de ses habitants, c'est-à-dire nous. Tout le monde est d'accord, en tout cas en Europe, pour dire basta la bagnole. Et là, on vient d'avoir les chiffres de vente de véhicules neufs pour septembre. Plus 14,5%. Eh ouais. Et nous, on chante Cocorico avec Renault, plus 28 points. Comment peux-tu dire un jour... Il faudrait quand même penser à moins prendre la voiture. Et le lendemain... C'est génial ! Oh putain, on a moins 1 250 000 bagnoles de plus sur les routes de l'Union Européenne. Étrange, non ? Ce genre de comportement qui m'amène à penser que pour nous, la question de l'environnement, c'est foutu. Les dégâts sont considérables. Nagui en a parlé hier, mais ça va au-delà de ce qu'on peut quantifier et même de ce qu'on peut imaginer. Regardez Neymar, d'habitude c'est en février que son pied se casse. Et ben là, à cause du dérèglement climatique, dès le mois d'octobre, il est hors service. Sa cuisse a lâché. À cause du réchauffement, ses muscles ne tiennent plus. Il a des jambes en papier crépon. Pour l'instant, on nous dit qu'il est indisponible pour 4 semaines, mais vous allez voir que dans 15 jours, on va nous annoncer que sa saison est terminée. Et dans un mois, on va apprendre qu'il est mort d'une fracture du cœur en prenant sa douche. De toute façon, certains le sentent venir, hein. Les nouvelles générations sont foutues. Contaminé. Du coup, on fait appel aux vieux briscards pour tenir la baraque. Sur France 2, Nagui et Drucker sont chouchoutés par la direction. On sait qu'ils sont immunisés pour tout. Incroyable, c'est de là. Sur CNews, ils ont repris Zemmour pour son talent. Non, plutôt pour son endurance. On sait qu'il va pas tomber malade, ou manquer d'oxygène, ou encore être victime de la malbouffe. Ça fait tellement longtemps que son fonds de commerce sent le caca. J'invente rien. Il a fait sa rentrée lundi, avec comme sujet l'islam, le voile, le grand remplacement, etc., etc. Hier, il a parlé des homosexuels. Oh, qui nous gonfle à vouloir devenir parents, hein? Devenir parents est un caprice, selon le génie de CNews. S'ils veulent des enfants, ils n'ont qu'à coucher avec des femmes, a-t-il quand même rajouté.
Sans déconner.
Vivement ce soir qu'il aborde avec tact un autre sujet comme, je sais pas moi, après les Arabes et les homos, il va peut-être parler des femmes, ces créatures du diable qui veulent piquer le travail des hommes. Et demain, pour conclure sa semaine de 4 jours en beauté, un sujet explosif et best-of à la fois sur l'invasion des femmes qui couchent avec des homosexuels voilés. C'est un bon sujet. Zemmour, c'est une forme de glyphosate social. Quand tu le répands, ça détruit tout. Alors pour en revenir à l'émission d'hier, où j'ai halluciné.
Qu'est-ce qui s'est passé?
C'est officiel, Anne-Elisabeth Lemoine est inconsciente, elle est folle, elle est ma boule. Hier soir, elle s'est carrément attaquée à Nagui. Elle l'a repris quand il faisait des fautes. Pas gênée, la nana. Quand tu sais tous les efforts que fait Nagui pour bien parler notre langue.
Et être intégré.
Et en plus, il se débrouille vachement bien, je trouve. Non, sérieux, Nagui, bravo. Tu parles de mieux en mieux. On comprend pas tout encore. Il y a encore des problèmes de cohérence, mais chapeau, beau travail. Prends-en de la graine, hein. Chiquito, là, Guise, là, le Colombien belge. On comprend même pas quand il parle, hein. Kiki, là, tout à l'heure, là. C'était déprimant. Alors, je sais pas ce qu'il lui a pris, à Lemoine. En même temps, Nagui, vous le savez, faut éviter au maximum de travailler avec ses ex. Surtout quand on s'est comporté comme un sagouin à la fin de la relation. Là, c'est clair, elle vous le fait payer. Non, et puis le coup de grâce. À la fin de l'émission, elle remercie France Télévisions et invite les téléspectateurs à la regarder sur France 5. Mais meuf, t'es France 5, tu t'attaques à Nagui, le baron de France 2. Sur France 2, sur ses terres. Le classement des chaînes sur France Télé, c'est comme le passe Navigo. T'es France 5, ça veut dire que t'es en zone 5. T'es loin, t'es très loin. Nagui, c'est zone 2, tout proche du réacteur. Merde. Alors au-delà du coup de folie d'Anne-Elisabeth Lemoine, belle émission Nagui. Excellent Nicolas Hulot qui nous a bien fait comprendre qu'en salopant la planète comme on le fait, on se tire une balle dans le pied en disant « si on se prive des beautés de la nature, on va succomber à notre propre laideur ». Alors, faites un geste, soutenez une espèce menacée, rapport au kikikiki, envoyez vos dons pour un orthophoniste à Guillermo, sinon j'ai bien peur qu'il soit viré. À demain.
France Inter, la bande originale avec Nagui.
Avez-vous envie de réaliser une série? Parce que tout à l'heure, vous avez dit que le dernier message
Euphoria, voir ça.
D'admiration était pour Euphoria. Est-ce que ça vous donne envie de réaliser pour Netflix, Amazon, Prime ou
autre? Mais il faut que l'envie soit mutuelle.
Vous avez une idée?
Oui, j'ai une idée. J'ai commencé à écrire une télésérie.
Et vous pensez que l'envie ne peut pas être mutuelle?
Je le sais en fait, maintenant.
Ouais. Elle est mutuelle.
Elle n'est pas.
Ah, on vous a refusé votre
projet. Pour l'instant, ouais, c'est pas grave, ça arrive parfois, c'est la vie. Et puis après, on remplace, on trouve un autre projet. C'est un projet qui est important pour moi. Je vais prendre juste plus de temps pour le développer, je pense. Après, c'est sûr que c'est dur de, pour nous québécois. C'est le milieu de la télévision est financé par l'État, puis c'est assez maigre quand même comme genre de budget. Mm-hmm. Après, quand tu tournes des films en 35 mm pendant 6 ans,
c'est pour ça que je parlais de plateformes comme Netflix ou Amazon.
Ouais, ben justement, c'est eux qu'on voulait approcher, ouais. Pour avoir accès à des budgets plus intéressants, puis peut-être une échelle un peu plus ambitieuse. Mais voilà. C'est déprimant comme conversation.
Non, c'est pas déprimant. Mais de toute façon, c'est honnête. Et moi, je suis agréablement, mais pas étonné, par l'honnêteté et la clarté de toutes vos réponses. Vous vous cachez derrière aucune phrase ou périphrase. Et c'est extrêmement touchant. Non, mais c'est vrai. Tout aussi touchant que Mathias et Maxime. Tu en dirais quoi, Leïla, avant qu'on se quitte?
Moi, je trouve que c'est un film sur le doute et c'est fabuleux de douter.
Daniel Morin.
Merci. Alors moi, paradoxalement, comme il y a beaucoup de scènes avec les amis, des scènes où c'est très très bavard, et j'ai l'impression que pourtant, ce film, on en rentre à l'intérieur de plus en plus, au travers des silences, des non-dits, des mimiques.
C'est vrai. Tom Villa,
toujours aussi fort, et 8 films à 30 ans, tu dis, la vache, la roue.
Impressionnant.
Ah ouais, très très impressionnant.
Impressionnant le bonhomme, ouais. Qui aurait aimé avoir la Palme d'Or et être le plus jeune à avoir la Palme d'Or, c'est son
rêve. Ça n'a pas été le plus jeune.
Je croyais que c'était le plus jeune, non?
Non.
C'est qui?
Non.
Charlie Chaplin, 5 ans.
Mais quand j'étais en compétition avec Mommy, il y avait déjà Steven Soderbergh qui avait gagné.
Guillermo.
Moi, j'ai vu arriver Xavier, il avait l'air au bout de sa vie. Franchement, là, je pense qu'il a passé un bon moment.
Mais oui, vous m'avez énergisé, vous m'avez donné de l'espoir, vous m'avez donné de la vie.
On nous appelle au Red Bull.
Tanguy.
Moi, je vais avoir du mal à parler de quoi que ce soit parce que je suis encore sous le choc. Flix et gay.
Merci mille fois, Xavier Dolan, et surtout un
merci
énorme bravo. C'est un bijou. Mathias et Maxime au cinéma aujourd'hui. Merci. Portez-vous bien. Prenez soin de vous. Et à très vite. Demain, nous recevrons Cécile de France et Fabienne
Berthaud. Cécile de France. Oui.
Exactement. Bonne journée tout de suite. Carnet de campagne, on est en retard. Désolé. Philippe Bertrand.
À demain, Nagui. Salut.
Ciao.